Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'Église, ce peuple de baptisés, en vogue dans l'Église, notamment depuis le Concile Vatican II, l'expression « à force d'être entendu peut, pardonnez-moi, sonner un peu comme une rengaine ». Et pourtant, quand de plus en plus de diocèses comptent autant de prêtres que les doigts de quelques mains, le temps des baptisés est plus que jamais venu. Rencontre ce matin avec deux d'entre eux, mari et femme dans la vie civile, parents d'une famille au cœur XXL. En ce mardi matin, cette émission Vivante Église, diocèse de Tarbes et Lourdes, rencontre avec la famille d'Argegène, famille XXL, d'Argegin, pardon, famille XXL, donc avec vous, Nicolas et Marie, bonjour.
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 Vous êtes donc mari et femme dans la vie civile, vous êtes parents de 5 enfants, dont 2 enfants donc porteurs de la trisomie 21. Vous êtes, vous, monsieur, donc archiviste du sanctuaire de Lourdes, et vous êtes des chrétiens engagés. Pour ceux qui suivent un petit peu les annonces que l'on fait régulièrement à Vivante Église, on annonce de temps à autre certaines de vos conférences. Donc cette association que vous avez contribué à fonder, qui s'appelle les Veilleurs de Bigorre, qui invite des grands témoins au long de l'année à Lourdes et qui rayonne un petit peu partout dans le diocèse. Ma première question donc était de vous demander d'habiter à Lourdes, ce n'est pas rien. Est-ce différent d'ailleurs? Une grâce particulière au long cours? Qu'est-ce que vous diriez, Marie?
Oui, c'est une grâce d'habiter ici parce que le fait d'avoir le sanctuaire dans la ville, c'est très important, c'est très porteur. Et en même temps, on peut vite se faire avoir et on peut considérer que le sanctuaire fait partie du paysage. Donc, mais on sent vraiment que c'est porteur pour la ville, même si la ville est divisée finalement en deux villes côte à côte, la ville basse avec le sanctuaire et la ville haute avec ses 15 000 habitants.
C'est-à-dire qu'on peut vivre en fait dans la ville haute sans jamais quelque part aller au sanctuaire.
Et on rencontre des personnes qui vivent à Lourdes depuis plus longtemps que nous. Nous, ça fait 9 ans. Et en fait, qui descendent très très peu au sanctuaire. C'est assez impressionnant pour eux, ça fait vraiment partie du paysage. Donc notre objectif, c'était, quand on a entendu ça, de ne pas tomber dans ce piège. Voilà, et effectivement, en famille, on va régulièrement au sanctuaire, même si on a une paroisse dans la ville haute très dynamique et sur laquelle on est très engagé. Le sanctuaire est quand même tient une part importante de l'histoire de la ville et de notre vie. C'est grâce au sanctuaire que, notamment, que nous sommes là.
Nicolas, qu'est-ce que vous diriez, vous? Alors, vous y descendez de temps à autre quand même, parce que vous y descendez pour le travail. Est-ce particulier de vivre à Lourdes?
Oui, c'est particulier parce que c'est vraiment une ville qui ressemble à aucune autre. C'est-à-dire, c'est une petite ville de 15 000 habitants, habituellement, qui se remplit. Alors, cette année est très particulière, mais des millions de personnes qui passent, c'est vraiment des gens qui viennent du bout du monde exprès pour Lourdes, et on savoure pas toujours la chance que l'on a de vivre ici.
Vous les croisez un peu tous ces pèlerins quand même quand vous allez au sanctuaire, ou est-ce que votre lieu de travail à l'intérieur du sanctuaire fait que vous ne les voyez pas?
Alors on les croise, moi je les croise parce qu'ils bloquent la circulation, mais après je les vois un petit peu parce que moi, en tant qu'archiviste, j'ai de temps en temps des demandes de pèlerins qui viennent me poser des questions et qui viennent faire des recherches dans les archives. Mais après, on les voit parce qu'ils vivent vraiment dans le sanctuaire et qu'on s'oblige à aller au sanctuaire.
Combien de pèlerins déjà par an donne-t-on au sanctuaire?
Alors, je sais pas exactement les chiffres. C'est en millions que cela se...
C'est en millions de personnes. Alors, on va faire connaissance un peu plus avec vous avant de voir votre vie de famille. Après, on verra un peu quels sont vos engagements. Engagement dans le scoutisme, engagement donc avec les Veilleurs de Bigorre. Et puis, à la fin, on parlera un peu plus de la trisomie 21. Ce handicap mal connu. Et sur laquelle la société française jette souvent un regard assez paradoxal. Pas de surprise, si on doit vous présenter un petit peu plus. Marie, donc vous venez de Bourgogne, votre père était ingénieur, votre mère infirmière puéricultrice, vous êtes issue d'une famille de 3 enfants. Vous faites partie, on va dire, du canal historique de la foi, j'ai envie de dire, c'est-à-dire famille catholique pratiquante, et vous êtes née dedans. Qu'est-ce que vous diriez quand même de votre vie de foi? Vous avez toujours eu la foi, étant enfant, ça vous est venu en fait très naturellement?
Oui, par l'exemple de mes parents, parce que c'est la foi s'apprend déjà sur les genoux de sa maman. Donc par l'exemple de mes parents, et puis après au fur et à mesure avec les rencontres que j'ai pu faire, voilà, les amitiés à l'école, les groupes dont j'ai fait partie, le scoutisme, les groupes de catéchisme, sur la paroisse, et puis après, du coup, j'ai continué. Étant adolescente, le scoutisme m'a beaucoup portée et m'a beaucoup confortée dans ma foi, surtout.
Vous étiez d'une famille où on avait l'habitude de prier en famille
ou... Alors, pas de prier en famille, non. D'aller à la messe en famille, oui.
De parler de la vie de foi, c'est des choses dont on parlait.
Parler de la vie de foi, oui, aussi, pas énormément, mais on en parlait quand même. Et après, finalement, ce qui m'a beaucoup porté dans l'adolescence, moi j'ai été pensionnaire, donc c'était mes amis en pension. Et puis le week-end, par le scoutisme, mes amis du scoutisme.
Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous revient comme ça de votre vie, on va dire, d'enfant et de jeune fille, qui peut aider les auditeurs à comprendre ce que c'est que cette vie de foi toute jeune que vous aviez, dont vous parlez?
Alors moi, le souvenir qui me revient plus particulièrement, c'est quand j'allais avec des amis aux nuits d'adoration à Montmartre.
À Paris, donc.
À Paris, et voilà, où on se retrouvait à beaucoup de jeunes à venir prier là, et je trouvais ça très porteur. Pour moi, c'était très important.
Voilà, Dieu était quelqu'un pour vous quand vous étiez devant l'Eucharistie, c'était vraiment le Christ qui était présent.
Oui, et puis mes parents m'ont appris effectivement dès toute petite à vraiment prendre conscience de la présence de Dieu dans tous les moments de la journée.
Est-ce que vous diriez que vous aviez une amitié, étant enfant et adolescent, avec Dieu ?
Ah oui, il était toujours avec moi, oui, c'était vraiment, il faisait partie de toutes mes activités.
Voilà, malgré tout, même si vous avez habité à Lourdes, c'est une chose qui aujourd'hui devient singulière. Donc c'est pour ça que je me permets de demander ces précisions. Nicolas, votre famille est du Lot, si j'ai bien compris. Donc
c'est ça.
Votre père était donc chef d'entreprise, votre mère donc infirmière. Vous êtes aussi issu d'une famille de 3 enfants. Qu'est-ce que vous diriez pour vous présenter un peu votre itinéraire spirituel?
Moi, c'est un petit peu comme Marie, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille de foi, j'ai mes parents qui nous ont inculqué des valeurs, on ne priait pas en famille, mais on allait à la messe, on parlait de foi aussi, puis je suis rentré dans le scoutisme aussi lorsque j'avais 10 ans, et c'est à travers les rencontres que j'ai pu faire dans le scoutisme que j'ai pu grandir comme ça et cheminer dans ma foi.
Pas de crise de foi à l'adolescence, pas de questionnement ou de grande remise en cause de votre côté?
J'ai pas l'impression, non, dans mes souvenirs, j'ai pas eu l'impression d'en faire une. Toujours une confiance et voilà, toujours cette présence à mes côtés.
Est-ce qu'il vous revient aussi un souvenir comme ça, peut-être issu du scoutisme aussi, fort qui dit cette relation vivante que vous aviez déjà avec Dieu?
Moi, c'est plutôt une rencontre en fait. Quand j'avais 10 ans, que j'étais donc louveteau, j'ai rencontré un prêtre qui était notre conseiller religieux, qui a été après mon premier père spi. Qui a baptisé notre aîné, qui nous a fiancés. C'est un prêtre qu'on a enterré en septembre, là, un prêtre assez âgé, qui avait eu beaucoup de vocations sur son petit village, qui moi m'a fait penser à ma vocation, qui m'a vraiment marqué. Et jeune, quand j'avais 18-19 ans, j'allais passer des soirées avec lui pour discuter, il me formait, on discutait de foi, on discutait d'histoire parce que c'était un féru d'histoire. Et vraiment, c'est, je pense, un peu, moi, ça me fait penser à l'image là du curé d'Ars avec le petit berger. Moi, il m'a vraiment montré le chemin du ciel.
Vocation, parce que vous vous êtes posé la question de la vocation ou vous aviez discuté de la vocation du mariage avec lui?
Les deux. En fait, on avait dans le Lot un évêque qui était Monseigneur Guédon, qui nous parlait souvent de la vocation quand on le rencontrait. Et moi, j'ai pu en parler aussi avec ce père qui s'appelait le père Francis, pouvoir parler de ma vocation, et m'aider à discerner aussi et trouver ma voie ensuite.
Alors, donc vous avez été tous les deux scouts. Donc en l'occurrence, le mouvement que vous avez fréquenté, c'est donc les scouts et guides d'Europe, guides et scouts d'Europe, je crois qu'on dit exactement. Est-ce à dire, vous vous êtes rencontrés via le scoutisme? Comment c'est fait votre rencontre à vous deux, Marie?
Oui, on s'est rencontrés par le scoutisme. On était chefs tous les deux. On était formateurs dans les camps de formation de chefs. Et en fait, Nicolas était responsable d'un camp de formation. Il avait besoin de quelqu'un pour l'assister. On lui a donné mon nom et voilà, j'ai dû l'assister correctement puisqu'il m'a gardée et que ça fait 16 ans qu'on est mariés.
Donc 16 ans que vous êtes mariés. Alors vous avez aujourd'hui 5 enfants. Avant qu'on fasse une première pause musicale, on peut peut-être introduire la particularité de votre famille. Déjà d'avoir 5 enfants aujourd'hui, c'est quand même une particularité. Vous avez 3 enfants qui sont les vôtres, c'est comme ça qu'on peut dire, 3 enfants naturels,
biologiques.
Et donc 2 enfants adoptés. Déjà les prénoms de vos enfants, comment s'appellent-ils? Quel âge ont-ils?
Alors nous avons Bathilde qui a 13 ans. Vendrille, qui a 11 ans, Irrié, qui a 7 ans et demi, Cernin, qui a 7 ans, et Espéry, qui a 3 ans.
Alors, ces enfants, il y en a 2 donc qui sont porteurs de la trisomie 21. On reviendra un peu sur l'accueil dans votre famille. Donc aujourd'hui, c'est vos enfants parce que vous les avez adoptés. Quel est le terme exact?
Oui, ce sont nos enfants maintenant.
Adoption plénière, c'est ça?
Adoption plénière, voilà.
Donc c'est un choix, on va dire particulier. Avant de qu'on en parle plus longuement, quand je vous présente comme une famille XXL ou au cœur XXL, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans ou est-ce que ça vous gêne, Nicolas ?
Non, parce que c'est une sorte de comment dire de trop plein d'amour que nous avons. Enfin c'est vraiment par amour que l'on adopte, que la famille s'est agrandie. Par amour que nous avons choisi ces enfants-là, donc voilà, je ne sais pas si c'est XXL ou XXXL, enfin, je ne sais pas si c'est fini ou pas, on ne sait pas, mais vraiment, moi je trouve que c'est assez révélateur de ce que l'on peut vivre.
Marie, qu'est-ce que vous diriez, vous en aviez rêvé quelque part étant plus jeune, c'est quelque chose que vous aviez envisagé, en fait la vie a fait qu'aujourd'hui vous êtes la mère de cette tribu de 5 enfants. Tribu un peu particulière, ou est-ce que c'était un projet de longue date, j'ai envie de dire?
Alors oui, étant enfant, étant jeune, je rêvais d'avoir beaucoup d'enfants. Voilà, quand on s'est fiancés, en discutant, on en voulait aussi. Voilà, on était parti pour une grande famille. Après, l'adoption, enfin, a toujours plus ou moins fait partie de ma vie aussi parce que j'avais des amies qui étaient elles-mêmes adoptées. Et voilà, après, je m'étais pas spécialement projetée là-dedans, mais je m'y retrouve
Vous connaissiez le monde du handicap et vous aviez fréquenté des personnes handicapées par vos familles,
oui,
par vos relations?
Par des amis, oui. Oui, et puis du fait de ma formation d'infirmière, c'est vrai que c'est un monde qui ne m'effraie pas.
Voilà, on va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour cette rencontre donc avec cette famille pas comme les autres. On vous retrouve dans quelques instants.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Diocèse de Tarbes et Lourdes, rencontre avec la famille d'Argegène, famille XXL. C'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Deuxième émission donc de ces émissions trimestrielles où les studios de Radio Présence se déplacent au plus près du terrain. Là, nous sommes à Lourdes, dans les hauteurs de la ville, puisque donc vous m'avez appris qu'il y a deux parties, Marie et Nicolas, dans cette ville, donc la haute et la basse ville, là où est le sanctuaire, la basse, deux parties. Voilà, qu'il s'agit de veiller à réconcilier d'une certaine manière. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi la première partie, vous êtes donc mari et femme, vous êtes parents de 5 enfants, dont 2 enfants porteurs de la trisomie 21 que vous avez adopté, et vous êtes des chrétiens engagés. On va faire un peu plus connaissance avec vous. Alors dites-nous quelques mots, vous teniez à le faire, vous êtes heureux donc de vivre près du sanctuaire, mais aussi près d'une paroisse, c'est pareil, on aurait pu... D'ailleurs, je l'avais interrogé, votre curé, être curé de Lourdes, c'est quand même quelque chose aussi. Hein. On imagine que cette fois, c'est un curé qui croit aux apparitions, ou en tout cas, qui n'a pas besoin qu'on le bouscule. Cette paroisse, vous aviez l'air de dire, Nicolas, c'est pas tout à fait une paroisse comme les autres, une paroisse très vivante au regard du nombre de Lourdais.
Oui, en fait, c'est une paroisse, alors qui est... Donc, c'est une petite ville de 15 000 habitants, Lourdes, mais c'est une paroisse dans laquelle les messes sont pleines, l'église est pleine. Alors en ce moment, l'église est en travaux, donc on est dans une crypte pour quelques années. Mais il y a énormément d'enfants de cœur, il y a 25 enfants de cœur à peu près. Il y a pour les filles, les enfants de Marie, où elles sont à peu près une vingtaine, un patronage très, très dynamique. Et en plus, on a la chance d'être une paroisse adoratrice.
Paroisse adoratrice, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi?
Alors, ça fait depuis 2012 maintenant, le Saint-Sacrement est exposé dans la paroisse, dans la crypte, du lundi matin au samedi matin. Donc, journée, jour et nuit. Donc, on se relaie, on est un par heure à se relayer. Donc, bien entendu, dans la journée, n'importe qui peut venir. Mais il y a toujours un adorateur fixe.
Ça vaut le coup de le souligner parce qu'il y a de plus en plus de paroisses adoratrices, comme on dit, oui. Mais de là à durer jour et nuit depuis autant d'années, c'est assez singulier.
Oui.
On entend les enfants derrière, voilà, c'est preuve que on est bien dans les studios. C'est une vraie vie de famille. Cette introduction faite sur la paroisse de Lourdes, je sais pas, quand sur 15 000 habitants, il y a du coup, je sais pas combien de personnes qui viennent à la messe, on est au-delà des taux de pratique habituels, j'ai envie de dire.
Alors, je connais pas les nombres ni les pourcentages, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même qu'il y a beaucoup de monde qui vient.
Oui. Il y a du monde en tout cas. Oui. Alors, parmi vos engagements, donc il y a une chose dont vous vouliez parler, sur lequel on voulait s'arrêter, c'est donc les Veilleurs en Bigorre. Donc c'est une association que vous avez donc contribué à fonder, qui, allez, je cite, je vais reprendre une citation que vous donnez sur votre site. Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. C'est une citation d'Albert Camus qu'on trouve sur votre site. Qu'est-ce que ça dit des Veilleurs de Bigorre, Nicolas?
Alors en fait, les Veilleurs de Bigorre, donc ça a été créé en 2017. En fait, notre but, c'était de proposer aux Lourdais, et maintenant on rayonne sur le diocèse et puis un petit peu plus en dehors du diocèse même, parce qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout pour assister aux conférences, de proposer une formation, de donner la parole à des personnalités publiques sur des sujets de société, notamment pour être informés de la pensée de l'Église sur ces sujets-là. En fait, on est parti du principe qu'on avait beaucoup de monde que l'on voyait qui venait à Lourdes en pèlerinage et quand ils venaient...
Et qui est parfois dans les pèlerinages rencontrent eux des grands intervenants.
Et qui nous disaient, on a assisté à Lourdes à une conférence extraordinaire et on se disait, nous on est à Lourdes et on n'a pas ces conférences-là, enfin on peut pas s'inscrire à tous les pèlerinages et on n'est pas trop au courant, donc on s'est dit, il faut réussir à faire venir les déconférenciers et on a la chance d'habiter Lourdes. Donc quand on appelle un conférencier en lui disant est-ce que vous pourriez venir à Lourdes,
il vient.
Il vient, voilà, c'est vraiment en nous disant c'est la Sainte Vierge qui m'appelle, donc il vient et comme ça on a eu vraiment des conférences extraordinaires depuis ces quelques années que nous organisons cela.
Alors vous avez 3 protecteurs, Saint Thomas More, Saint Jean-Paul II et Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, ça surprendra moins. Marie, pourquoi est-ce que vous avez choisi Saint Jean-Paul II et Saint Thomas More? Nicolas, allez, elle, elle repasse le bébé. Le petit sixième, hein, elle vous le repasse.
Oui, son sixième. Alors, saint Thomas More, parce que il a préféré suivre ce que lui disait sa conscience que de suivre ce que lui disait son, son roi à l'époque. Donc, on trouve que c'est important de pouvoir avoir un avis parfois différent de ce que la société peut nous dire. Et saint Jean-Paul II, c'est à cause de l'évangile de la vie, parce que c'est la, la protection de la vie et que c'est un des sujets que l'on aborde le, assez régulièrement.
Alors, de fait, si on regarde quelques-unes des conférences passées, il y a eu Michel Chiron, donc sur le thème du spiritisme, ou en tout cas ça c'était la programmation de cette année. Hein, voilà. Jacques Trémollet de Villers, donc pour une conférence sur Jeanne d'Arc. Jacques Trémollet de Villers qui fait partie donc des fondateurs d'Ictus, pour ceux qui connaissent. Mmh. Inès Pellissier du Rosas qui intervient de temps en temps à cette antenne, entre autres dans l'émission de Nathalie Cardon des Clés pour vivre, ou le père Pierre Amard, ou alors des forums Jésus-Messie, ces forums d'évangélisation à l'adresse donc des musulmans. C'est des conférencier engagé quand même, hein. Y a une marque, on va dire. Hein. Vous vouliez vous revenir sur, sur quelques-unes des conférences qui vous ont marqué, peut-être pour mettre en bouche les Lourdais qui ne vous connaîtraient pas, ou les gens du diocèse, ou au plus largement, pour donner des idées à d'autres. Alors cette fois, Marie, c'est moi qui vous repasse le petit sixième. Vous, je crois que c'était Cécile Edel, c'est ça? Non, c'était Tuc d'Huillerville.
Voilà,
Tuc d'Huillerville, donc qui est figure connue, hein, fondateur, enfin, on va dire aujourd'hui, il est, je crois, secrétaire général d'Alliance Vita, cette association, on va dire, de défense de la vie. En quelques mots, qui est Tuc d'Huillerville et pourquoi cette conférence vous avait marqué?
Alors, cette conférence m'a marqué parce que, voilà, Tuc d'Huillerville, comme vous l'avez dit, est fondateur d'Alliance Vita, que nous, on fait partie de l'Alliance Vita, que cette défense de la vie...
Comment vous représenteriez Alliance Vita? Qu'est-ce que c'est que cette association dont vous avez été un temps responsable ici dans, dans le coin, c'est ça?
Alors voilà, Nicolas est responsable au niveau départemental. Après, c'est une association, en fait, de formation, voilà, pour tout un chacun qui souhaite avoir des arguments pour défendre la vie, en fait.
C'est défendre la vie, ça veut dire quoi? C'est
défendre la vie, c'est la défendre de son commencement jusqu'à la fin, en fait. Donc vraiment sur tous les aspects, que ce soit l'avortement thérapeutique, que ce soit l'acharnement thérapeutique en fin de vie, que ce soit l'euthanasie, que ce soit le handicap, il y a voilà tous les thèmes liés à la vie sont abordés aussi par des intervenants extérieurs au moment de l'Université de la Vie qui a lieu en janvier, et qui nous donne voilà des clés pour avoir effectivement les arguments après pour expliquer notre point de vue de façon plus naturelle.
Donc pour former aussi de plus en plus de chrétiens à cette culture de la vie, comme on dit, pour faire aussi un peu de lobbying auprès des on va dire des institutions ou des élus, hein. Ça fait partie du travail, non?
Oui, on a des actions que l'on fait régulièrement, il y en a à peu près une ou deux par an, où là effectivement on se rend plus visible et on va voir tout un chacun en général dans la rue.
Alors Tuc d'Huillerville était intervenu chez vous donc pour réagir ou comment dire donner une conférence à l'occasion de la publication d'un livre qui s'appelle Le temps de l'homme. On l'avait interrogé à cette antenne à cette occasion, une émission qu'on a souvent rediffusée. Qu'est-ce qui vous avait frappé en fait dans cette pourquoi c'est aussi important tout d'un coup d'avoir des grands témoins?
Je trouve que ces grands témoins, enfin notamment moi, ce qui me touche dans Tuc d'Huillerville, c'est que ce qu'il dit nous touche aussi dans notre quotidien. On peut le mettre en place aussi dans notre quotidien, et puis ça nous encourage justement à aller à leur suite pour défendre nos convictions, parce que on a beau avoir des convictions, c'est pas pareil de les garder pour soi ou d'aller vraiment les défendre auprès des autres. Et moi j'ai pas un caractère monté sur des barricades, par contre avoir des arguments pour discuter avec une personne et lui expliquer de façon assez calme, voilà, et arriver à l'écouter et à rebondir sur ce qu'elle dit, je trouve que ça c'est important, et c'est là que j'aime la formation d'Alliance Vita justement, et que Tuc d'Huillerville du coup m'avait touché.
Tuc d'Huillerville qui en plus a comme marque de fabrique d'être en général d'une grande bienveillance au point de surprendre parfois ses adversaires sur les plateaux télé. Oui. Vous Nicolas, vous vouliez vous arrêter sur une autre conférence donc d'une certaine Cécile Edel, c'est pareil, vous pouvez nous la présenter, nous dire pourquoi elle vous a particulièrement marqué.
Oui, alors Cécile Edel, c'était une des premières conférences que l'on organisait C'est la présidente de Choisir la vie. C'est une des organisatrices de la Marche pour la vie qui a lieu habituellement en janvier.
Pour ceux qui connaissent pas la Marche pour la vie, en quelques mots, c'est...
La Marche pour la vie, en fait, c'est une marche qui a lieu aux alentours de l'anniversaire de la date de la promulgation de la loi Veil. Et c'est une marche dans Paris pour montrer que nous sommes toujours, malgré la loi Veil, nous sommes toujours là pour montrer que ce n'est pas une bonne loi, en fait. Et Cécile Edel, justement, avait dit, bon, tant qu'il y aura cette loi, on marchera, même si c'est contre vents et marées, même si tout le monde a l'air de faire que l'avortement est quelque chose de normal, on ne trouve pas ça normal et on marchera toujours contre cette loi.
Et alors, pourquoi ça vous avait marqué? Parce que vous aviez pas besoin peut-être d'entendre Cécile Edel, vous semble-t-il, pour être sensible à ce sujet ou pour avoir ces convictions-là?
Oui, on a toujours besoin d'être remué à nouveau. Et justement, Cécile Edel a nous expliquait qu'il fallait toujours, quand on avait des convictions, il fallait toujours les témoigner, toujours témoigner de ses convictions. Même si, voilà, ce que je disais, c'est même si la société nous dit le contraire. Et c'était vraiment intéressant d'entendre quelqu'un qui nous parle de ça, parce que, voilà, moi personnellement, je trouve que l'avortement est un drame, qu'il n'y a pas vraiment de débat public à ce sujet, qu'on ne traite pas le problème. D'une éducation affective auprès des jeunes, que voilà, il y a vraiment un souci, que pour moi la vie humaine commence dès la conception, donc quoi que l'on pense, pour moi cet avortement sera toujours un meurtre.
On va parler maintenant du scoutisme. C'est un autre de vos grands engagements. Vous avez fait tous les deux beaucoup de scoutisme. Je me suis replongé dans quelques béabas du scoutisme. J'ai essayé de rattraper mon retard en préparant cette émission. J'ai vu qu'il y avait presque 400 000 membres du scout à travers le monde, dans 217 pays. Ça en fait des pays ou des territoires. Voilà, le scoutisme, faut-il le rappeler, donc fondé par Baden-Powell. Les mouvements guides et scouts d'Europe en France, c'est quand même plus de 60 000 jeunes, ai-je vu. À travers le monde, plus de 60 000. Vous êtes aussi présent dans 23 pays. Bref, c'est un grand, grand mouvement. Comment vous présenteriez le scoutisme pour ceux qui ne le connaissent pas, Marie, on va dire pour les béotiens du scoutisme, ou même ceux qui ont des a priori, y compris sur les scouts et guides d'Europe?
La base du scoutisme, déjà, c'est que c'est l'éducation des jeunes par les jeunes. Voilà, donc ce sont dès les plus petits, dès les louveteaux et louvettes de 8 à 12 ans, ceux qui ont 11, 12 ans, qui sont les plus grands, sont, entre guillemets, responsables des plus jeunes et sont là pour les amener sur la voie de la connaissance dans plein de domaines différents. Après, chez les 12-17, c'est pareil, les guides et les scouts, ceux qui ont 16-17 ans sont chefs de patrouille, donc sont responsables là de 5-6-7 jeunes qui leur sont confiés et qui peuvent être jeunes, parce que les plus jeunes peuvent avoir 12 ans. Et là, justement, c'est...
Mais le but, quel est-il, en fait? C'est quoi? C'est une espèce d'école de vie ou...
Oui, c'est une école de vie, qui reprend vraiment les cinq sens, qui reprend l'ensemble de ce qu'on peut découvrir dans la vie. On y apprend aussi bien à prier, qu'on y apprend à faire de la purée sur le feu, qu'on y apprend à dormir sous la tente, qu'on y apprend à aider l'autre à apprendre à chanter, à être attentif à l'autre sur tous les aspects de la vie qui seront utiles après dans notre vie d'adulte.
Alors justement, j'ai trouvé aussi cette expression, le scoutisme vient en complément de l'éducation reçue par les familles pour aider les enfants à devenir des citoyens et des chrétiens heureux, responsables, solides, ouverts à l'autre avec un grand A et aux autres, cohérents dans leurs pensées, leurs paroles et leur vie, et des adultes sur lesquels on pourra compter. Qu'est-ce que vous rajouteriez un peu sur l'esprit du scoutisme, Nicolas, cette école de vie que, on va dire, ceux qui ont été scouts et qui ont des enfants qui sont scouts souvent en sont des fervents défenseurs, et pour les autres parfois c'est un monde un peu inconnu.
Oui, alors c'est vraiment ça, là, ce que vous avez dit, la définition du scoutisme, c'est de faire un citoyen, un chrétien citoyen, bien dans sa peau, dans son rôle actif dans la société.
Les principes, par exemple, rappelez-nous ces grands principes du scoutisme. Avoir ses devoirs envers Dieu, envers l'autre, on a semble-t-il pas mal de devoirs. Quels sont-ils?
Alors les principes, en fait, il y a toute une loi avec une dizaine d'articles. Il y a des principes avec trois articles. C'est vrai que c'est voilà, on dit que le devoir du scout commence à la maison, que le scout est fait pour servir et sauver son prochain. C'est vraiment être tourné vers les autres, être au service des autres. Et donc, en étant au service des autres, on est au service de la société. Et c'est le but vraiment de ce scoutisme.
Alors ici, donc, vous êtes responsable. Vous avez quelle responsabilité déjà?
Alors ici, en fait, moi, j'ai été pendant très longtemps chef de louveteau, c'est-à-dire les garçons de 8 à 12 ans. Marie était cheftaine de louvette de 8, donc les 8-12 ans, parce que le scoutisme européen n'est pas mixte, ne pratique pas la coéducation. Donc, les garçons sont d'un côté, les filles de l'autre.
Et quel est le sens un peu de cette séparation qui est pas le cas de tous les mouvements scouts? Vous qu'est-ce que vous y voyez comme intelligence pédagogique?
Moi, je trouve que c'est, alors les enfants sont très souvent mélangés à l'école, très souvent mélangés dans les sports. Donc là, c'est vraiment pour se retrouver entre garçons, pour pouvoir avoir des discussions en lien avec son sexe.
Son genre, voilà. C'est ce qu'on dit aujourd'hui.
Voilà. Et pareil pour les filles qui ont besoin aussi d'être entre elles, et les activités, les attentes ne sont pas les mêmes, les jeux ne sont pas les mêmes. Donc ça permet de pouvoir faire des choses différentes.
Est-ce qu'il y a un point de l'éducation scout qui vous tient à cœur, vous qui êtes parent très engagé donc sur les questions, on va dire, éducatives, au regard de votre famille, de votre grande famille? On imagine qu'on n'a pas autant d'enfants sans avoir une certaine appétence pour les choses éducatives. Qu'est-ce que vous diriez, Marie, vous? Est-ce qu'il y a un point comme ça du scoutisme qui pour vous qui résonne comme une vertu éducative qui pourrait être profitable à tous?
Moi, un point très important, c'est que le scoutisme, effectivement, c'est une coéducation par rapport à ce que donnent les parents à leurs enfants. Mais c'est la vraie différence avec l'école, etc., c'est qu'il n'y a pas d'esprit de compétition et qu'on prend chaque enfant tel qu'il est, avec ses points forts, ses points faibles, et que on a le même objectif pour chacun, mais pas forcément le même chemin. Et c'est vraiment ce que font les parents avec chacun de leurs enfants. On a le même idéal d'éducation pour chacun de nos enfants, pour l'ensemble de notre famille, mais on n'a pas forcément le même chemin pour chacun, parce que chacun réagit avec son caractère, avec ses facilités, ses difficultés, sa réaction par rapport à la vie, à la famille, à plein de choses.
Nicolas, même question avant de faire une deuxième pause. Qu'est-ce qui vous retiendriez comme ça un peu de la vie scout à partager presque à la sortie de l'école avec des parents qui sont loin de tout ça?
Oui, alors moi, ce que je trouve de très très intéressant dans le scoutisme, c'est justement qu'il n'y ait pas cette compétition et qu'il y ait, c'est l'accueil en fait que je trouve très important. C'est-à-dire que par le scoutisme, on va découvrir d'autres personnes que l'on ne fréquenterait pas habituellement. Dans le louvetisme, c'est-à-dire les 8-12 ans, on va vivre ce qu'on appelle en famille heureuse, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer une ambiance de famille dans laquelle il n'y aurait pas de différence, il n'y aurait pas de dispute. C'est l'idéal, bien entendu, il y en a forcément, mais c'est vraiment cette façon de se tourner vers l'autre, de l'accueillir, quel qu'il soit, et moi, c'est, je pense, une des choses qui a vraiment forgé ma personnalité de vouloir accueillir l'autre, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quelles que soient ses origines. Et dans notre scoutisme européen, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la tenue, c'est-à-dire l'uniforme. On est tous habillés de la même façon et ça nous permet de ne pas avoir de barrières sociales et que l'on retrouve à l'école, on le voit avec nos propres enfants. Et dans le scoutisme, tout cela est balayé justement par cet uniforme.
Voilà, pour vos engagements, donc les Veilleurs de Bigorre, le scoutisme, ça donnera envie certainement à certains. Les Veilleurs de Bigorre, pour ceux qui nous quitteraient maintenant, je redonnerai les informations. Il y a vous l'espérez, si nous ne sommes pas à nouveau reconfinés, on espère que l'accordéon va s'arrêter là, confiné, déconfiné, reconfiné, oui. Le 20 janvier prochain, donc à la paroisse de Lourdes, vous recevrez donc l'abbé Amar, qui est passé plusieurs fois à cette antenne, pour son dernier livre, donc qui s'appelle Hors service, récit d'une maladie, de sa maladie et de l'épreuve de la maladie, de la manière dont il l'a traversé, l'abbé Amar, qui est donc un des fondateurs du Padre Blog, un blog fort connu. Et si on ne le connaît pas, il faut aller se balader dessus. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler un petit peu plus donc de la trisomie 21. La trisomie 21 qui est donc dans l'actualité, puisque revient régulièrement des projets de loi, et là à l'occasion des révisions des lois de bioéthique, pour, on va dire, mieux surveiller ou mieux éviter même que des personnes trisomiques naissent. On verra quel est votre regard sur ces réalités.
Emmanuel Pella.
Diocèse de Tarbes et Lourdes, rencontre avec la famille d'Argegène, famille XXL. C'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Deuxième émission que l'on fait donc depuis ce diocèse, le diocèse de Tarbes et Lourdes, qui est donc dans notre giron, j'ai envie de dire, et rencontre donc avec Marie et Nicolas, et leur famille de 5 enfants. Nicolas, vous êtes archiviste au sanctuaire de Lourdes, et vous avez donc une famille donc de 5 enfants, dont 2 enfants adoptés porteurs de la trisomie 21. Alors, on va y venir justement un petit peu plus dans le détail. Quand on arrive chez vous, on est accueilli par vos 5 beaux bambins, dont 2 donc sont porteurs de la trisomie 21. Ça se voit, la trisomie 21, hein. Mmh. Ça se voit sur le visage. Pour vous, ça a l'air de tout naturel. Marie, comment ça vous est venu, ce choix un peu particulier ?
De l'adoption ?
De l'adoption et de l'adoption, oui, d'enfants trisomiques.
Alors, le choix de l'adoption, on y a réfléchi en fait pendant nos fiançailles, parce qu'on a été touchés par d'autres couples qui avaient du mal à avoir des enfants, qui ne souhaitaient pas se tourner vers l'adoption. On s'est dit, bon, et nous, si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on s'est dit que nous, on se tournerait vers l'adoption, qu'on se sentait capable. Donc, on a attendu 3 ans, notre fille est née, donc on avait déjà lancé une procédure d'adoption. Finalement, notre fille s'est annoncée, donc on a coupé court à cette procédure. Ensuite, vendredi, notre deuxième est arrivé, une belle surprise 2 ans après. Et ensuite, on a 4 ans entre vendredi et Irié. Donc là, on s'est dit, bon, on se relance. Donc on a fait toute la procédure d'adoption et on a eu l'agrément pour pouvoir adopter un enfant. Mais cet agrément, on l'a eu au moment où j'ai été enceinte d'Irié. Donc on a décidé de mettre en stand-by cet agrément pour pouvoir accueillir ce bébé comme il se devait et ne pas en accueillir deux d'un coup comme ça qui n'étaient même pas jumeaux ou autre. Donc
vous avez prorogé d'une année.
Voilà, après, on a prorogé d'une année.
Vous avez accueilli
et quand il y a eu un an, voilà, on a redéclenché les démarches. Et donc Cernin est arrivé après Iria et Cernin, donc 7 mois et demi d'écart.
Alors pourquoi un enfant porteur de la trisomie 21?
Alors, ce sont des questions qu'on s'est posées pendant la procédure. La procédure dure 9 mois, donc on a vraiment le temps de se poser des vraies questions. Voilà, on s'est dit qu'on avait déjà 3 enfants en parfaite santé, qu'on n'avait aucun a priori sur le handicap et que du coup, c'était, enfin voilà, qu'on se sentait d'accueillir un enfant porteur d'une différence.
Voilà, donc on va dire un enfant porteur d'un handicap, quel que soit le handicap.
Voilà, on appelle ça un enfant à particularité dans les textes officiels. Alors les particularités peuvent être multiples et nous on s'est tourné plus particulièrement vers la trisomie 21 parce qu'on connaissait déjà la Fondation Le Jeune, qu'on connaissait
Fondation
un peu
Le
la
Jeune,
trisomie 21.
Pour ceux qui connaissent pas, il faut toujours
la Fondation Le Jeune. Alors
je vais le faire à votre place hein. Le professeur Le Jeune, c'est donc celui qui a découvert la trisomie 21 et depuis donc il y a une fondation qui existe et qui accompagne entre autres nombre de familles qui ont des enfants porteurs de la trisomie 21 et puis qui travaille aussi à trouver on ne guérit pas de la trisomie 21, mais on peut en tout cas peut trouver un traitement de façon peut-être à amoindrir les effets de la trisomie 21 ou mieux la vivre. C'est, on va dire, un lieu de recherche et d'accompagnement des familles. Sur votre route, vous avez croisé une association donc qui s'appelle Emmanuel France, ou plus connue aussi par certains sous le nom de Montjoie. C'est l'histoire d'un couple absolument, on va dire, alors lui, je sais pas combien de X il faudrait. Nicolas, présentez-nous ce couple hors norme.
Oui, alors c'est Jean et Lucette Alain Grin.
Alain Grin, ils portent bien en l'occurrence, ils en ont un.
Oui. C'est ça, nous si c'est XXL, eux, je sais pas combien il y a de X. C'est un couple qui a eu un enfant biologique et qui après n'arrivait plus à avoir d'enfant et se sont tournés vers l'adoption dans les années, je pense, 70. Ça doit être, oui, à peu près 70, et qui se sont tournés vers l'adoption des enfants à particularité, des enfants trisomiques, à l'époque qu'on appelait les Mongoliens, en fait, et qui
ont... Faut dire qu'à l'époque, on portait pas le même regard sur la trisomie 21.
Voilà, les recherches du professeur Lejeune étaient en cours, et le regard n'était pas du tout le même. Voilà, et eux ont décidé d'accueillir ces enfants-là qui étaient abandonnés, qui étaient parfois cachés par leur famille.
Alors ils en ont accueilli combien déjà?
Alors je crois qu'en tout ils en ont accueilli 18 propres, 18. Enfin 18 alors, pour eux.
Alors Nicolas, ne raconte pas de sottises parce que moi j'ai lu des reportages sur eux et j'ai même vu des photos. Donc
oui, voilà, ils ont. Et c'est un couple, alors ils sont très âgés maintenant, mais ils sont lumineux, vraiment. Nous, on les a rencontrés, on y allait deux fois, une fois tout seul et puis une fois avec les enfants, avec tous nos enfants là, il y a 2 ans. Et c'est un couple. Elle a des yeux qui brillent et lui, il a un sourire. Et ils ont une douceur extraordinaire. Et Montjoie, c'est un lieu en Anjou. On a passé la clairière aux enfants parce que c'est au milieu d'une forêt. Il y a une clairière avec leur maison, avec le cimetière dans lequel il y a certains enfants qui sont morts et qui sont enterrés, une petite chapelle. Et voilà, vraiment, nous, quand on y est allé dans cette chapelle, il y a le Saint-Sacrement. Et au-dessus du Saint-Sacrement, quand on rentre dans la chapelle, il y a marqué « Je t'attendais ». Et quand on arrive dans cette chapelle, qu'on voit ce message-là, on se dit on est là.
Alors ça veut dire que vous avez rencontré donc cette association Emmanuel France, donc c'est l'autre nom en fait de l'association Montjoie,
oui,
c'est ça hein.
C'est le nom officiel.
Et c'est quoi? C'est de les avoir rencontrés, vous êtes dit justement et pourquoi pas nous?
Non, parce que nous en fait on les a rencontrés une fois que notre projet était bien.
Vous aviez déjà pris la décision.
Voilà, on avait déjà pris la décision. On avait lu pas mal de choses sur eux. On savait qu'il fallait passer par eux parce que c'était une association en plus qui est une association. Ce sont des gens qui sont portés par la prière, donc on voulait passer par eux. Et en fait, maintenant, eux, avant, ils avaient une pouponnière, ils accueillaient des enfants à Montjoie. Et depuis quelques temps, ils font le lien entre les conseils généraux et les familles qui recherchent les enfants.
Alors, parlez-nous un petit peu de la trisomie 21. La trisomie 21, elle se réinvite régulièrement dans l'actualité, souvent avec deux visages. On va commencer par le visage clair. Régulièrement, il y a des campagnes de publicité qui mettent en valeur des personnes trisomiques, tendant à laisser entendre que c'est un handicap avec lequel les Français se familiarisent. La dernière que j'ai trouvée, c'est donc une jeune Eliane, je crois, Goldenstein, qui est donc une jeune femme qui est une des égéries maintenant de la marque Gucci, qui est donc un mannequin porteur de la trisomie 21. Mais alors, il y a un aspect aussi un peu plus sombre et qui dit un peu le regard paradoxal que les Français ont sur la trisomie 21, c'est qu'aussi régulièrement, comme à l'occasion des révisions de loi de bioéthique, est évoqué le fait de détecter ou de dépister encore mieux les enfants porteurs de cette maladie. Donc c'est là dans le cadre du diagnostic préimplantatoire, avant d'implanter les embryons, on pourrait donc demain, sélectionner ceux qui ne sont pas porteurs de la trisomie 21. Comment est-ce que vous vivez ce regard un peu paradoxal, Marie, vous qui êtes donc maintenant la maman de ces deux enfants, vous vous dites quoi? Vous dites que les Français hésitent, qu'ils savent pas, ils passent à côté de quelque chose?
Ah oui, ils passent à côté de quelque chose, ça c'est certain. Alors, je ne vais pas vous dépeindre un portrait idyllique de notre vie de famille parce que ce sont des enfants. D'abord, ce sont des enfants avant d'être des enfants trisomiques. Donc, ce sont des enfants qui ont leur caractère, qui font des bêtises, qui nous cherchent, qui nous poussent aussi dans nos retranchements. Mais ce sont des enfants qui ont ce chromosome en plus qui est vraiment un chromosome d'amour extraordinaire.
C'est-à-dire, ça donne quoi alors? Pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, ce sont des enfants qui ne supportent pas que les autres soient tristes. Donc si on a un autre de nos enfants ou une personne autour de nous qui est triste, eux ça les touche encore plus rapidement que n'importe qui. En fait, ils ont vraiment un sixième sens là-dessus. Donc ils vont aller très très doucement vers cette personne, avoir des gestes d'une délicatesse extrême, alors que réellement ce sont plutôt des enfants un peu bulldozers. Et là on leur découvre une délicatesse extraordinaire. Ils ont des mots qui dépassent tous nos mots, et qui sont très simples mais qui sont dits avec un tel amour et une telle charité que c'est exceptionnel.
C'est souvent des enfants très affectueux aussi.
Ah oui, énormément.
Pourquoi? Parce qu'il y a quoi, une plus faible inhibition en fait? Ça s'explique comment ça se...
Oui, alors
parce que même adultes, hein, c'est des enfants, enfin des enfants, pardon, ce sont des adultes qui ont une affectivité un peu différente de nous.
Oui, ce sont des enfants qui, bien qu'ils aient une différence, ne voient pas la différence en fait des autres et ne... Au niveau, ils ont un code social un peu différent, parce que pour eux, on rencontre quelqu'un dans la rue, nous on va lui dire bonjour, à la rigueur lui serrer la main tant qu'on n'est pas en période de Covid, mais eux vont les prendre dans les bras et les embrasser comme du bon pain. Voilà, il y a un code social qu'ils ont beaucoup de mal à acquérir, mais du fait de leur trop plein d'amour, pour eux c'est quelqu'un qui leur fait un sourire, donc c'est quelqu'un de bon, et donc c'est quelqu'un qui mérite cet amour qu'ils vont lui donner.
Le papa, qu'est-ce qu'il dirait pour ceux qui connaissent mal la trisomie 21, qui la regardent de loin? Qu'est-ce que vous trouvez de beau peut-être et de plus sombre, le clair et l'obscur? Oui. Qu'est-ce que...
Alors, les Alain Gras disaient que l'enfant trisomique, il provoquait à l'amour. En fait, il a pas de notion du mal. Et c'est vraiment ça, en fait. Il nous entraîne vraiment à aimer. C'est quelque chose de... qu'on ne voit pas avec d'autres, avec des enfants qui ne sont pas porteurs de ce handicap. C'est vrai que nous, ce sont des enfants, on voit ce côté paradoxal dont vous parliez avec, on va essayer de les éliminer. Il y avait un député qui disait, il faut traquer l'anomalie génétique. Et d'un autre côté, on va mettre en avant les cafés joyeux dans lesquels ils servent. On va mettre en avant le huitième jour, là, ce film avec cet enfant, ou le film sur De Gaulle là, avec une jeune qui joue le rôle de la fille d'Anne De Gaulle, de la fille du général. Et on va mettre en avant ça. Et à côté de ça, on va tout faire pour les traquer et les éliminer. C'est vraiment paradoxal, mais on n'en est pas un paradoxe près dans notre société.
Mais vous, alors en clair et en obscur, qu'est-ce que vous diriez de ces enfants qui sont les vôtres et qui vous accompagnent?
Bah, comme disait Marie,
c'est la face vraiment... claire ou la face obscure, quelle est-elle?
Alors la face claire, c'est vraiment, c'est la joie. C'est toujours. Alors c'est bien entendu, il pleure, bien entendu. De temps en temps, il nous énerve comme tous les enfants. On nous avait dit quand on commençait les démarches, c'était les Alain Grin qui nous avait dit le Bécassine était trisomique, c'est-à-dire que tout ce que Bécassine entreprend, ça tombe n'importe comment. Et il nous disait, vous verrez, l'enfant trisomique, c'est exactement la même chose. Et on le voit, nous, quand on a nos enfants qui nous aident à mettre la table, faut être derrière, il faut toujours être là. Mais à côté de ça, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est... Je pense que quelqu'un qui veut traquer justement l'enfant trisomique, qui veut le tuer, il a jamais dû être embrassé par un trisomique. Sinon, c'est pas possible qu'on dise ça. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de connaître le trisomique, c'est de se laisser aimer par lui.
Est-ce qu'il y a un côté plus, entre guillemets, sombre? Enfin, j'imagine que c'est en lien avec toute vie et peut-être particulièrement avec tout handicap. Quel regard ils portent sur eux-mêmes, par exemple, ou...
Alors, sur eux-mêmes, ils voient pas trop de différence. Pour le moment, nous,
ils
sont encore petits. Après, le regard de la société, quand on se promène dans la rue et qu'on entend quelle horreur,
Ça vous arrive?
Ça nous arrive. Un jour, une dame a dit à mon épouse, en voyant notre fils, le prochain faudra le réussir parce que celui-là, il est pas réussi.
Mais c'est exceptionnel, globalement, à l'école, ça se passe comment?
Alors, à l'école,
on vous regarde un peu comme des extraterrestres ou?
Un petit peu. Enfin, on nous regarde déjà comme des extraterrestres avec 5 enfants, alors avec 2 ans, on n'est pas...
Même à Lourdes.
À Lourdes, le regard est quand même plus facile sur le handicap, je pense, qu'on a cette chance-là. On a la chance aussi que dans l'école où sont nos enfants, qui est une école privée sous contrat à Lourdes, l'Immaculée de Soum, on a été accueillis extraordinairement bien, encouragés par la directrice et une équipe éducative géniale. On a une AVS en or, alors que c'est parfois une denrée rare pour les parents qui ont des enfants handicapés. Vraiment, on a eu aucun souci. Aucun souci à la paroisse, aucun souci au catéchisme.
Je tiens pas à faire en sorte que vous parliez forcément des mauvais côtés d'un enfant handicapé, mais une fois de plus, c'est un ciel bleu sans nuages.
Ah non, il y a des nuages, comme avec tout enfant. Mais c'est vrai que pour le moment, nous, ça reste encore assez facile. C'est-à-dire que ils ont pas de gros problèmes de santé physique. On a cette chance-là. Ils poussent tellement à l'amour que même les gens les plus, qui pourraient les regarder les plus méchamment, comme ça a pu se voir, ils les font fondre. Ils sont suivis par, au niveau santé, on va une fois par an au moins à la Fondation Le Jeune. Il y a les séances d'orthophonie, de psychomotricité, il y avait de la kiné, il y avait des choses comme ça. Mais finalement, qui sont tellement maintenant ancrés dans notre quotidien que ce n'est pas pesant.
Eh ben, ça donne envie. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis ici dans votre famille. On les entend derrière. Ils piaffent de vous retrouver. Et c'est vrai que leur beau sourire, quand je suis arrivé dans votre maison, ne diront pas le contraire. Un grand merci à vous.
Merci.
On peut donner quelques informations pratiques à la fin de cette émission. Pour les gens du pays, donc de Lourdes, du diocèse de Tarbes-Lourdes et d'un peu plus loin, eh bien la première prochaine conférence donc des Veilleurs de Bigorre, c'est donc le 20 janvier à la paroisse de Lourdes, l'abbé Amar, pour son livre « Hors service ». Le 27, normalement 7 jours après, ça sera donc Paul Préau, qui est donc le grand chef de la communauté Saint-Martin, sur son dernier ouvrage dont j'ai oublié le titre. Et puis on peut parler aussi, renvoyer aussi les auditeurs à l'association Emmanuel France et à cette famille, redonner leur nom de famille.
Les Alain Grin.
Alain Grin. Alors vous tapez Alain Grin sur Internet, accrochez-vous. Vous allez prendre une claque, comme on dit. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site Internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.